On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la transaction en droit du travail. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? On fait le point avec mon invité Sébastien Mailloux, avocat chez Barthélémy Avocat. Sébastien, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que la transaction en droit du travail?
Alors la transaction en droit du travail, le contrat de transaction résulte du Code civil et l'article 2044 du Code civil et la transaction, de toute manière, vous la trouvez possible dans toutes les matières juridiques. Alors l'objectif, c'est un accord entre les parties pour mettre fin à une contestation née ou à naître via des concessions réciproques. L'objectif, hein, c'est de trouver une solution à l'amiable, hors contentieux, à un litige potentiel. Alors, en matière de droit du travail, ça peut autant être sur l'exécution qu'au moment de la rupture, du contrat de travail. Et l'avantage, c'est que on peut faire une transaction, signer une transaction n'importe quand, même lorsque la procédure est engagée.
Donc maintenant qu'on sait ce qu'est un accord transactionnel, concrètement, quelles sont les conditions de validité d'un tel accord?
Alors, pour que la transaction soit valable, il faut déjà une contestation, donc il faut bien cerner la contestation en tant que telle, qui peut être future, hein, et probable éventuellement. Il faut également que chacune des parties soit d'accord pour mettre fin à cette contestation. Et surtout, il faut des concessions qu'on appelle réciproques, donc autant des concessions de la part du salarié que de la part de l'employeur. En sachant que la concession du salarié est bien souvent sa renonciation d'exercer une action judiciaire et la concession de l'employeur est le plus souvent financière.
Alors, on va se placer du côté de l'employeur. Quels sont les avantages pour l'employeur de transiger avec un salarié?
Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est d'éviter l'aléa judiciaire. On le sait en matière de droit du travail, le positionnement de certains conseils des prud'hommes est parfois un peu compliqué, notamment d'un point de vue juridique. Et on sait qu'il y a toujours un consensus au sein du Conseil des prud'hommes qui est peut-être ou pas favorable à l'employeur, mais on a toujours des doutes. Donc ça évite cet aléa judiciaire. Deuxième élément, le temps judiciaire est long. Il peut y avoir éventuellement un appel à la suite d'une décision du Conseil des prud'hommes. Ça permet d'accélérer et de régler les choses et de régler le litige plutôt qu'attendre le temps judiciaire, que le temps judiciaire passe. Autre élément assez intéressant, c'est que, et notamment pour des salariés peut-être niveau cadre supérieur, ça permet de rester en catimini pour négocier la transaction avec quelque chose, on va dire, un peu de secret, et ça évite une éventuelle publicité auprès du public. Et dernier élément, parfois on met en œuvre des licenciements avec des motifs, on le sait, un peu juste d'un point de vue juridique, ça évite une contestation judiciaire.
Alors, est-ce que ça évite vraiment tout type de contestation par le salarié?
Alors, ça dépend du type de contestation. On sait qu'en matière de problématiques de harcèlement, notamment moral ou sexuel, et surtout sexuel, les salariés ont, enfin, quand le harcèlement est manifestement avéré, les salariés ont moins tendance à transiger, alors que les employeurs auraient plutôt tendance à vouloir transiger. Et après, il faut bien que vous compreniez que la transaction, on l'utilise dans la très très grande majorité des cas au moment de la rupture du contrat. On
D'accord.
peut l'utiliser sur des problématiques d'exécution du contrat en cours de relation. Mais on l'utilise assez, assez rarement, du moins
Le but, c'est un peu d'encadrer la rupture, c'est
Oui,
ça?
voilà. L'objectif, c'est de sécuriser plutôt la rupture. Pourquoi? Parce qu'on le sait, la transaction a un effet assez intéressant à la fois pour l'employeur et pour les salariés. Elle a l'autorité de la chose jugée. Donc, en signant, les parties s'accordent pour que aucune des deux, on va dire, porte le litige devant un juge, et surtout le salarié.
Pour le salarié, c'est quoi l'intérêt au-delà de ce que vous venez d'exposer?
Pour le salarié, l'avantage, là encore, c'est que il y a des aléas du judiciaire, il y a un temps judiciaire, et certains salariés ont besoin d'argent, on va dire, assez rapidement. Le temps d'attendre une condamnation par le Conseil des prud'hommes, qui peut intervenir 1 an et demi, 2 ans, Et si un appel derrière vous rajoutez 2 ans et demi, voire 3 ans selon les cours d'appel, ben là le salarié a une indemnité transactionnelle immédiate et tout de suite de la part de l'employeur. Autre avantage, c'est que, alors hormis si ça dépasse certaines limites, c'est que cette indemnité transactionnelle n'est pas imposée.
D'accord. Comment elle est calculée ?
Alors, l'indemnité transactionnelle, c'est une négociation. Alors, souvent, la négociation se fait entre conseil salarié-avocat, salarié-employeur. Ce n'est pas obligé, mais pour un salarié, c'est quand même beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus confortable. Alors, comment on la calcule ? C'est très simple. Alors, bon, de chaque côté, on évalue nécessairement les risques, mais on a le barème Macron et on se fonde sur le barème Macron qui délimite l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, comme il y a un plafond et un plancher, bah, l'avocat salarié va avoir tendance plutôt à toucher au plafond. Nous, avocats employeurs, on est plutôt au plancher et on essaye d'arriver à quelque chose de cohérent des deux côtés.
Et une fois que c'est signé, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Est-ce que le salarié peut essayer de réclamer autre chose, une indemnité plus conséquente ou c'est fini ?
Ça dépend comment la transaction est rédigée. Globalement, le salarié, par rapport à son litige, au litige qu'on a transigé, le salarié ne peut plus revenir en arrière. Alors, hormis éventuellement accord de l'employeur, qui permettrait de remettre en cause la transaction, mais ça n'arrive jamais. Normalement, on encadre les effets de la transaction, et normalement, ces effets de la transaction sont limités, on va dire, au litige. Mais on rédige, c'est souvent l'employeur qui rédige, l'avocat employeur, on rédige suffisamment bien les transactions pour que le salarié ne puisse plus rien demander, que ce soit au moment, enfin, du fait de la rupture ou du fait de l'exécution du contrat.
Donc il faut quand même bien rédiger la transaction pour éviter d'éventuelles contestations derrière.
Oui, tout à fait. Alors ça pose énormément de difficultés parce que l'un des avantages de la transaction, et notamment pour l'employeur, c'est que l'employeur ne paye pas de cotisation sociale sur l'indemnité transactionnelle. Mais encore faut-il que cette indemnité transactionnelle compense un préjudice pour le salarié lié à la rupture, que c'est une vocation indemnitaire. Donc la Cour de cassation nous a également fait une proposition en disant si votre indemnité transactionnelle par contre est liée à l'exécution du contrat et notamment si c'est pour régler des problématiques de salaire, là l'indemnité transactionnelle c'est du salaire et donc on paye des cotisations en tant qu'employeur. Donc il faut en gros dans l'indemnité transactionnelle être très précis sur les montants de cette indemnité. Bien, qu'est-ce que va compenser le montant de cette indemnité-là ? Est-ce que c'est une problématique d'exécution du contrat ? Est-ce que c'est une problématique, on va dire, de fin de contrat ? Qu'est-ce que ça compense, cette indemnité ? Parce que c'est assez important, parce que derrière, l'URSSAF est très vigilante sur la rédaction de la transaction.
Donc, rédigez bien strictement cette transaction de manière à sécuriser cet accord transactionnel.
Voilà. Autant pour le salarié que pour l'employeur.
On va conclure là-dessus. Merci Sébastien Mailloux. Je rappelle que vous êtes avocat chez Barthélémy Avocat.
Merci.
Tout de suite, l'émission continue. On va parler de fraude au président.